14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
On voyait du sang partout sur le lit. Vraiment, le matelas imbibé de sang. On voyait du sang sur la tête de lit, du sang par terre, des meubles renversés, cassés, des éclats de verre partout.
Bonjour, chambre 503, ne pas déranger, un meurtre est en cours. Que s'est-il vraiment passé cette nuit de mai 2009 derrière la porte close de cette chambre du Bristol, l'un des plus prestigieux palaces parisiens, une adresse luxueuse, fréquentée par des célébrités de la finance et du showbiz, milliardaires et popstars. Que s'est-il passé si ce n'est un meurtre entre riches, une scène de crime des plus sanglantes et des plus sauvages? Dans cette affaire, le suspect numéro 1 va vite être identifié. Un dénommé Ian Griffin, fils de famille britannique, au parcours fantasque, la victime, la fortunée Kinga Wolfe, allait bientôt devenir son épouse. Un scénario a priori des plus simples, mais pourtant, au regard de la personnalité des protagonistes, c'est une plongée en plein mystère qui va subvenir dans de sombres abysses. C'est cette affaire que je vais vous raconter aujourd'hui. Pourquoi tuer une femme riche qui est votre bienfaitrice? Coup de sang ou coup de folie? Avec nos invités, nous allons voir pourquoi la vérité des faits a longtemps échappé aux enquêteurs et aux juges et peut-être au tueur lui-même.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Aujourd'hui, dans l'heure du crime, meurtre au Bristol. Au printemps 2009, ce palace discret et prestigieux va recevoir la visite des policiers du 36 après la découverte spectaculaire d'une scène de crime dans l'une des chambres de l'hôtel. Il est aux alentours de 20h ce mardi 26 mai 2009 lorsqu'un agent de sécurité du Bristol frappe à la porte de la chambre 503. Il y a bien un panonceau en carton pendu à la poignée qui indique « Do not disturb », ne pas déranger. Mais l'employé a reçu la consigne d'entrer s'il le faut. À plusieurs reprises, dans la journée, un certain Marek Wolf a effectivement téléphoné depuis la Pologne pour indiquer qu'il n'arrivait pas à joindre sa sœur Kinga Wolf, descendue au palace. L'homme a fini par s'énerver et la direction a décidé de vérifier. L'agent de sécurité pousse la porte. Il est aussitôt frappé par le désordre qui règne dans la chambre. Le pied d'un meuble, une bergère est brisée. La télévision est renversée, des appliques et des rideaux arrachés. Les fils électriques des lampes de chevet ont été sectionnés et jetés en boule dans une poubelle. Tout semble avoir été détruit dans un accès de rage. Le matelas est couvert de taches brunâtres, du sang, des éclaboussures de sang qu'on retrouve encore sur les murs. L'employé visite aussitôt la salle de bain. Il y a là une femme totalement nue, à moitié immergée dans la baignoire, morte. Elle porte d'innombrables traces de coups, des hématomes sur tout le torse, sur le visage et sur le crâne. Il s'agit bien de la cliente qui ne répondait plus au téléphone, Kinga Wolf, 36 ans, une femme d'affaires polonaise. Les policiers de la brigade criminelle et leurs collègues de la scientifique sont rapidement à pied d'œuvre dans la chambre 503. La direction de l'hôtel a fait poser un paravent devant l'entrée pour dissuader tout regard curieux. Les légistes dénombrent plus de 100 hématomes sur le corps de la jeune femme, dont 33 sur le thorax et 17 sur le crâne. Kinga Wolf a été massacrée par un meurtrier impitoyable. Des hémorragies sont détectées au pancréas et au foie. La victime a également subi un étranglement qui l'a peut-être asphyxiée. En fait, Kinga Wolf est morte suite à la conjugaison de tous ses traumatismes. Des traces de tension et de griffures sur ses avant-bras démontrent qu'elle a tenté de se défendre. Les légistes notent encore des marques rouges très visibles sur l'épaule gauche, comme des traces de brûlures. Elles ont été causées par un pistolet à impulsion électrique, un taser retrouvé posé sur une corniche d'éclairage de la salle de bain. Il avait été tout juste sorti de son emballage. Un autre appareil de même type, en forme lui de bâton de rouge à lèvres, est retrouvé dans le fatras de la chambre. Le meurtrier a maladroitement essayé d'essuyer le sang sur les murs et dans la salle de bain. En témoignent ses serviettes maculées d'hémoglobine, abandonnées près de la baignoire. Les soupçons des policiers se portent évidemment sur l'homme qui partageait la chambre 503 avec Kinga Wolf. Il est identifié sous le nom de Ian Griffin, un Britannique âgé de 39 ans, le compagnon de la victime. Le couple est arrivé en voiture, une Porsche, en provenance de Grande-Bretagne le samedi 23 mai. Ian Griffin et Kinga Wolf ne sont pas passés inaperçus. Le dimanche 24 au soir, le couple a dîné au restaurant Bound, une adresse chic proche des Champs-Élysées. Le personnel se souvient de ce dîner. Tout se passait bien quand l'homme, visiblement ivre et énervé, selon une responsable du restaurant, a jeté son verre de vin et quitté la table. Il était minuit et demi. La femme, en pleurs, a essayé de le rattraper, mais l'homme s'est engouffré dans un taxi. Ian Griffin s'est installé au bar du Bristol où il a bu deux vodkas. Kinga Wolf a rejoint, elle, la chambre et a commandé une bouteille de vin à la réception. Le 25 mai, à 5h du matin, un verre a été jeté de leur chambre sur la verrière du rez-de-chaussée du palace. Impossible de savoir qui, du client ou de la cliente, a jeté ce fameux verre. Et on va voir bien sûr ce qui va se passer par la suite. Les recherches notamment pour retrouver Ian Griffin qui reste pour le moment invisible. Maître Francis Triboulet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'avocat de Ian Griffin. Merci d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. On va bien sûr parler longuement de votre client et de ce qu'il a pu faire cette nuit-là. Tout de suite, Francis Triboulet, ce qui frappe, c'est la sauvagerie de cette scène de crime. C'est rare, même les policiers le diront, la criminelle, ils diront c'est rare de trouver une chambre, enfin un lieu aussi dévasté.
L'état dans lequel se trouve cette chambre 503 montre au moins une chose d'emblée aux enquêteurs, c'est que il y a eu une bagarre, c'est-à-dire pas seulement des coups portés par une seule personne sur une autre personne, mais il y a eu forcément...
Une lutte, c'est ça.
Oui, il y a eu une lutte, c'est évident. Vu l'état de dévastation de cette chambre, c'est évident. Tout a été cassé, quasiment.
On trouve les empreintes de la victime, Kinga Wolf, et de Ian Griffin un peu partout, hein, sur les objets, etc.
Et il y a du sang partout, il y a les empreintes de l'un et de l'autre partout. C'est plus facile de dénombrer les objets qui n'ont pas été abîmés que ceux qui ont été détruits. Enfin, c'est quasiment une scène de guerre qui a eu lieu là.
Et pourtant, un petit détail, personne n'a rien entendu dans ce palace feutré.
Ça, c'est l'avantage des palaces, c'est que les chambres sont bien insonorisées. Tout est très feutré, effectivement.
Et donc, il n'y avait pas grand monde, je crois, à l'étage, quand ça s'est passé autour, hein, dans les chambres autour. C'est ce que j'ai cru lire.
Le taux d'occupation du palace n'était pas à 100%.
Les constatations policières en font état. Bonjour, maître Guillaume Trénard.
Bonjour.
Et merci, vous aussi, d'être dans le studio de l'heure du crime. Alors, c'est la partie opposé, si je puis dire. Vous êtes l'avocat des parties civiles et de la famille de Kinga Wolf. Je dis tout de suite, on n'est pas ici pour faire un débat, mais chacun est libre de s'exprimer. Il y a donc cette femme qui est morte, que l'on retrouve dans la baignoire. Est-ce que vous pouvez me dire, maître Trénard, qui est déjà Kinga Wolf? Qui est la victime?
Alors, Kinga Wolf, c'est une femme d'origine polonaise. Elle est de nationalité polonaise. Elle a 35 ans hein, quand elle rencontre Ian Griffin, et elle a repris depuis quelques années la société familiale Végex, qui est une société d'import-export de produits agroalimentaires en Pologne. Hein. Et de cette petite société familiale, elle en a fait une multinationale. C'est vraiment l'histoire, Kinga Wolf, d'une femme à succès. Elle est partie de pas grand-chose, d'une petite société, et elle en a fait vraiment une des premières sociétés d'export d'agroalimentaire.
Elle est connue d'ailleurs en Pologne.
Elle a beaucoup de succès, elle vit en Angleterre depuis plusieurs années, et elle est très riche.
Elle a été mariée, je crois.
Elle a été mariée à un autre homme, duquel elle a divorcé. Elle a rencontré Ian Griffin au mois de mai 2009. Elle l'a rencontré depuis à peu près un an. Ça fait un an qu'ils sont ensemble.
Maître Francis Triboulet, avocat de Ian Griffin, c'est le coup de foudre entre Kinga Wolf et Ian Griffin quand ils se rencontrent?
Oui, c'est l'histoire que l'on raconte. Ce qui est intéressant, c'est que le jour des faits, il se promène aux Champs-Élysées, à la galerie Poinchot, et il y a un vendeur d'électronique qui viendra dire dans le dossier qu'il les avait vus se promener bras dessus, bras dessous, et qu'ils avaient l'air d'un couple très, très amoureux.
très unis. Oui. Hein, c'est là d'ailleurs qu'ils vont acheter les fameux tasers, les pistolets. Là.
Exactement.
Est-ce qu'ils disent à ce moment-là pourquoi, ce qu'ils comptent en faire,
c'est... Alors ce que dira Ian Griffin par la suite, c'est qu'ils se rendaient donc sur leur bateau, sur le yacht qui appartenait à Kinga, et pour se protéger contre d'éventuelles intrusions, ils avaient décidé de faire l'acquisition de ces tasers.
D'accord, donc il n'y avait pas de... c'était pas une acquisition.
Non, et puis Ian Griffin, il est passionné de gadgets. Il avait créé une société pour distribuer des gadgets, et le taser aussi l'intéressait pour ça. C'est un type assez immature. Hein.
Mmh. Oui, il est resté effectivement adolescent, même en atteignant l'âge adulte. Hein.
Oui,
c'est
oui,
ce qu'on va voir d'ailleurs. Hein.
Comme pas mal d'hommes, mais lui, c'est particulièrement visible.
Particulièrement. Encore une question, Maître Trénard. Un couple qui est amoureux, il y a eu un coup de foudre, c'est évident. Hein. Il y a eu une attraction mutuelle entre ces deux personnes. Et pourtant, c'est un couple en crise, là. Parce que je racontais la scène du restaurant, mais il y a d'autres témoignages qui vont dans ce sens-là.
C'est un couple amoureux, indiscutablement. Néanmoins, c'est un couple qui est en crise depuis toujours. Mm-hmm. Depuis toujours. Ils ont une relation extrêmement conflictuelle, qui est faite de violence, morale. Ça, c'est une certitude, de violence physique aussi. Il y a des faits qui ont été rapportés. On est sur l'histoire d'un couple avec des violences conjugales sous-jacentes plusieurs mois.
C'est un peu « je t'aime moi non plus » en permanence.
Hein. C'est « je t'aime moi non plus » sur un fond de violence psychologique et physique.
Ian Griffin a pris le large, il a quitté l'hôtel en voiture. La brigade criminelle met tout en œuvre pour le retrouver. Trois jours après la découverte du corps de Kinga Wolfe, un mandat d'arrêt est émis contre son compagnon britannique. Après la découverte du corps sans vie de Kinga Wolfe, les enquêteurs de la brigade criminelle veulent savoir où est passé Ian Griffin, témoin numéro 1 dans cette affaire d'homicide. Les policiers savent que le lundi 25 mai vers 13h30, veille de découverte du corps, et alors que Kinga Wolfe était sans doute déjà morte, Ian Griffin s'est fait monter 3 cafés dans la chambre. Il a récupéré lui-même le plateau sur le pas de la porte, vêtu d'une simple serviette de bain autour de la taille. La vidéosurveillance du Bristol le montre ensuite en train de quitter l'hôtel seul vers 16h30. Le client a alors donné pour consigne de ne pas réveiller sa compagne qui souhaite dormir, explique-t-il. Il a repris sa Porsche Carrera au garage où le gardien l'a trouvé très nerveux. Aucun des employés n'a remarqué une quelconque transe de blessure. À 19h44, la Porsche est flashée à 178 km/h sur la route nationale entre Roy et Amiens. Ian Griffin a manifestement passé la nuit dans le secteur de Calais puisque la présence de sa voiture sur le ferry pour l'Angleterre n'est signalée que le lendemain, mardi 26 mai à 13h44. Voiture ensuite localisée devant la propriété des parents de Ian Griffin dans le comté du Cheshire. Ian Griffin est bel et bien en fuite et espère sans doute échapper aux autorités françaises. De toute évidence, l'homme cherche à se cacher. Après avoir appris la mort de Kinga Wolfe, l'agente immobilière qui loue une grande maison à Oxshott, au sud de Londres, s'est rendue dans la demeure. Quelqu'un venait de la quitter précipitamment, les lumières étaient allumées et la cuisine en désordre. Ian Griffin a par ailleurs été aperçu dans la marina de Shepperton où il souhaitait récupérer son bateau de 18 pieds baptisé Madog. Il n'a pas pu le faire, l'embarcation était en réparation. Il a alors demandé s'il pouvait acheter un hors-bord, mais aucun n'était à vendre. La police anglaise a désormais pour ordre de signifier à Griffin son arrestation. 1er juin, un habitant de Warrington, là où se trouve la maison des parents de Griffin, le retrouve errant, débraillé et halluciné dans un jardin. Une corde est pendue à un arbre et il a les poignets mutilés. Griffin raconte à l'homme qu'une dispute avec son ami s'est mal terminée. Elle lui a sauté dessus. En se dégageant, il lui a porté un coup. La femme avait sur elle un couteau ou un tournevis. Le lendemain, il l'avait trouvée très pâle. Elle était froide. Il avait tenté de la réveiller en la plaçant dans la baignoire. Ian Griffin est incarcéré dans un état de grande anxiété, des hallucinations causées par le manque d'alcool, écrira le docteur John Parker. La procédure d'extradition promet d'être longue. Les autorités françaises doivent pour l'instant se contenter des auditions nombreuses de la police du Cheshire dans le cadre de la demande d'entraide pénale internationale. Les parents du suspect, Janet et Bernard Griffin, indiquent que leur fils leur a demandé de venir le chercher près de Calais, après le drame. Il leur a raconté que Kinga l'avait agressée en lui lançant des objets. Il avait constaté le lendemain qu'elle était morte. Il pensait qu'elle s'était suicidée par overdose. Tracy Baker, ex-petite amie de l'intéressé, indique que Yann lui a téléphoné depuis la France pour lui dire qu'il avait été menacé par un pistolet électrique en forme de tube de rouge à lèvres. Elle décrit Kinga comme une femme possessive, violente, et lui comme un homme non violent. Les proches de Kinga donneront vite un tout autre son de cloche, décrivant Yann Griffin comme un homme qui profitait de l'argent de la femme d'affaires. Il la battait. En octobre 2008, en Angleterre, le couple avait mutuellement déposé plainte l'un contre l'autre à l'issue d'une altercation. L'affaire était alors restée sans suite. Maître Francis Triboulet, avocat de Yann Griffin, est aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. On vous retrouve avec cette espèce de fuite un peu désespérée de Yann Griffin après ce qui s'est passé au Bristol. Il a vraiment l'intention de se suicider, on peut le croire ?
Lorsque Yann Griffin a été retrouvé par la police anglaise, il portait sur les poignets des traces de coupures. Il était hagard, dans les bois, totalement perdu. Vous avez dit tout à l'heure qu'il avait essayé de rejoindre son bateau en précisant que c'est un bateau de 18 pieds. Mais 18 pieds, ça fait 18 feet, 18 feet, et ça fait 5,48 mètres. C'est une petite coque de noix.
Un petit hors-bord.
C'est un petit hors-bord, mais pour aller où ? Certainement pas aux États-Unis. Donc c'est également une action qui ne correspond pas à grand-chose. On ne peut pas dire que Yann Griffin se soit mis en cavale. Non, il a tenté des choses qui sont désespérées, qui n'avaient pas de sens. Un peu comme toute cette histoire d'ailleurs, qui est insensée. Et j'espère qu'aujourd'hui, ensemble, on va essayer de trouver une explication. Mais pour l'instant, on
va essayer, on est là pour ça. Yann Griffin, je le disais, c'est un fils de famille. Vous l'avez abordé tout à l'heure, mais quelle est sa trajectoire en quelques mots ? Il a un petit peu grillé, brûlé tous ses vaisseaux au fur et à mesure de son avancée dans la vie, Yann Griffin.
Oui, c'est un self-made man. Alors, pas tout à fait un fils de famille. Son père est un...
une famille aisée quand même.
Une famille aisée, mais qui ce sont plutôt des cockneys que des lords anglais. Et il s'est fait tout seul. C'est un type qui est très créatif, qui monte des entreprises, qui crée des boîtes avec pour vendre par exemple des technologies nouvelles, qui a plein d'idées, qui n'est pas forcément un bon gestionnaire. C'est un beau garçon qui a du succès et qui en réalité est très perturbé sur le plan psychique.
Il est très vite dans le milieu Happy Few aussi. Il y a toujours cette anecdote qui court de cette fameuse Lamborghini qu'il a achetée au guitariste Eric Clapton. Oui. Il fréquente un petit peu ce milieu-là, etc.
C'est ça, il se donne l'image d'une sorte de playboy anglais qui très flashy, comme on dit en Angleterre.
Maître Guillaume Trénard, vous êtes évidemment l'avocat de la partie civile, la famille de Kinga Wolfe, la victime. La famille qui laisse entendre que finalement, Griffin, c'est un profiteur. C'est quelqu'un qui était là pour l'argent de Kinga. C'est comme ça que le décrit la famille.
La famille, elle constate qu'au moment où il rencontre Kinga Wolfe, contrairement à Kinga Wolfe qui, elle, est en pleine réussite professionnelle, a des moyens financiers importants, lui, le succès, le fuit depuis plusieurs années. C'est quelqu'un qui, effectivement, est un entrepreneur, mais qui n'a pas créé de société qui fonctionne depuis maintenant, plusieurs années, qui a des grandes difficultés psychologiques.
C'est un loser, dit la famille.
C'est ce que dit la famille. La famille, elle constate une inégalité très importante entre les revenus et puis les succès des uns de l'un et de l'autre. Et c'est vrai que Kinga Wolfe, au cours des mois qui ont précédé son décès et ceux qui ont suivi sa rencontre avec Yann Griffin, a tout payé pour le couple. Elle était le portefeuille de ce couple.
C'est ça. Donc, il n'avait peut-être pas tellement intérêt à la tuer, parce que c'était un peu son coffre-fort ambulant, Kinga Wolfe.
C'est une très bonne remarque.
Maître Triboulet.
C'est une très bonne remarque. On comprend. On n'a jamais compris la raison pour laquelle il avait tué Kinga.
Si ce n'est un accès de folie pur et simple. Je voudrais que vous nous disiez un mot, tous les deux, sur Tracy Baker, l'ancienne petite copine de Yann Griffin, parce qu'elle aurait servi presque de déclic. Alors, du côté de Griffin, on dit que Kinga Wolfe était jalouse de Tracy. Est-ce que c'est vrai ? Ça a été avéré ?
Ce qui ressort de la procédure et des témoignages des différents protagonistes de cette affaire, hein, et notamment de l'entourage de Kinga Wolfe et de Ian Griffin, c'est que Ian Griffin, depuis plusieurs mois, menait une sorte de ménage à trois, sans que d'ailleurs ni Tracy Baker ni Kinga Wolfe ne soient véritablement au courant de la place que l'autre occupait dans le cœur de Ian Griffin. Mmh. Voilà. C'est quelque chose qu'elles ont su après coup, qu'elles pouvaient suspecter. Mais c'est vrai qu'il y avait de la jalousie, c'est vrai que la relation entre Ian Griffin et Kinga Wolfe était une relation extrêmement tumultueuse pour plusieurs raisons.
Je veux dire par là, c'est un élément déstabilisant, hein, finalement, cette présence, hein, ce ménage un peu insolite à trois. Maître Triboulet, avocat de Ian Griffin, il est incarcéré là, à ce moment-là, en Angleterre. Il attend son extradition. Il est suivi par des psychiatres à ce moment-là. Il va être examiné longuement.
Oui. La première fois que j'ai rencontré Ian Griffin, c'était dans sa prison anglaise, la prison de Wandsworth.
Ah, très bien.
Juste à côté de Londres, près de Wimbledon. Et c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que c'est une vieille prison, un peu comme Fresnes, mais c'est une où le châtiment corporel a été en vogue pendant très très longtemps, plus lorsque Ian Griffin y a été incarcéré. Mais c'est amusant parce que lorsque vous arrivez dans une prison anglaise et que vous voulez rencontrer votre client, vous êtes à un parloir, mais ce n'est pas un parloir à la française, c'est un grand parloir commun où on vous sert des petits gâteaux et du thé.
Et en deux mots, quel souvenir vous avez de Griffin à ce moment-là? La première impression qu'il vous a fait?
D'un homme dévasté.
Deux ans après la mort de Kinga Wolfe, Ian Griffin est extradé vers la France où la justice le considère comme un meurtrier. Il va pouvoir alors s'expliquer devant un juge d'instruction, mais que va-t-il dire? Le 12 mai 2011, Ian Griffin, tout juste extradé d'Angleterre, est mis en examen pour homicide volontaire sur la personne de Kinga Wolfe. Il admet une dispute au soir du 24 mai 2009, mais conteste la version de l'enquête. Selon lui, Kinga n'aurait pas apprécié d'être repoussée alors qu'elle désirait que son compagnon lui fasse l'amour. Elle serait alors rentrée dans une rage folle. C'est elle qui très certainement a alors brisé tous les objets dans la chambre. Il décrit Kinga comme coutumière de ce genre de crise. Ne lui avait-elle pas cassé deux côtes lors d'une précédente dispute ? Griffin ne conteste pas les coups et la centaine d'hématomes relevés sur le corps de la victime, mais il lui est incapable de dire ce qui s'est vraiment passé. Il ne revoit que les traces de sang qu'il tente d'éponger dans la salle de bain. Il explique que Kinga était sur le lit, mais il ne s'était pas rendu compte qu'elle saignait beaucoup au niveau de la tête. Il l'avait alors transportée dans la salle de bain pour lui donner un bain afin de la réchauffer. Il n'aurait pris conscience de la mort que plusieurs minutes après. L'avocat des parties civiles ne manquera pas de souligner ce trou noir mémoriel du suspect. Il se souvient des heures qui ont précédé et suivi la mort de Kinga, mais il a juste oublié le moment où il l'a tuée, soit tout ce qui concerne sa responsabilité, confie maître Guillaume Trénard. Ian Griffin ne va pas beaucoup varier dans sa version. Il explique avoir voulu rentrer en Angleterre, non pas pour fuir, mais pour se suicider. Il pensait alors que Kinga avait fait une overdose de médicaments, ce qui aurait causé sa mort. L'expertise toxicologique de la victime établit qu'elle avait 1,03 g d'alcool dans le sang et avait effectivement ingéré un cocktail de médicaments, mais à des doses thérapeutiques. Pas de traces de stupéfiants retrouvées dans ses cheveux, mais confirmation de prise régulière de somnifères, bromazépam et zolpidène. Griffin se présente encore comme un homme non violent qui affirme n'avoir jamais frappé une femme de sa vie. Maître Guillaume Trénard, je citais vos propos à l'époque et notamment les doutes que vous émettiez sur ce fameux trou de mémoire. Aujourd'hui encore, il y a eu des procès, on va en parler, mais aujourd'hui encore, vous doutez de ce trou noir de la mémoire chez Ian Griffin?
Les déclarations de Ian Griffin, en réalité, ont évolué au cours de la procédure. Il a commencé par dire qu'il se souvenait qu'il avait été attaqué par Kinga. Et qu'il s'était défendu. Mmh. Et puis, quand on lui a opposé les constatations matérielles, hein, c'est-à-dire une chambre dévastée, vous l'avez dit tout à l'heure, plus de 100 hématomes sur le corps de Kinga Wolfe, alors même que lui, aucun hématome et aucune blessure n'ont été constatés sur son corps, ni par les employés du Bristol qui l'ont vu après les faits, ni par ses parents qui ont témoigné dans la procédure. Et après ça, il a dit qu'il ne se souvenait plus. Or, ce qu'on constate, c'est que il a pu décrire avec une très grande précision les moments qui ont précédé les faits, ceux qui ont suivi les faits également, parce que quand il est interrogé sur ces points-là, il répond, mais que le moment où il tue King Harold, ça, il ne s'en souvient plus.
Donc ça, c'est ça qui vous trouble le...
Y a manifestement une mémoire qui est sélective.
Une mémoire qui est sélective.
Ça a été retenu. D'ailleurs, ça a été mis en exergue à l'occasion des deux procès, en première instance et en appel, de Ian Griffin.
Maître Francis Triboulet, vous défendez Ian Griffin dans cette affaire. Vous nous avez dit tout à l'heure, quand vous l'avez rencontré, cet homme, vous trouviez que c'était un homme fragile, qui était vraiment en proie sans doute à des névroses. Quel effet vous fait-il au fur et à mesure de vos rencontres? Cette fameuse absence de mémoire, qui est tout de même troublante, je suis un petit peu maître traînard là-dessus, c'est quand même bizarre de ne pas se souvenir de ce qui s'est passé précisément lorsque vous avez fait quelque chose de terrifiant.
Ne pas se souvenir de ce qui s'est passé lorsqu'il s'agit de faits aussi épouvantables, aussi terrifiants, c'est dévastateur pour celui qui est accusé de ces faits-là. Vous imaginez bien que la première chose que son avocat a pu lui dire, c'est surtout, il faut vous expliquer, il faut que vos juges comprennent ce qui s'est passé. Et s'ils ne comprennent pas, ils vous en tiendront rigueur et la sanction sera d'autant plus lourde. On a préparé ensemble sa défense pendant plusieurs années et il a été incapable. Il était incapable. Il a compris l'enjeu, mais il a été incapable de se rappeler de ce qui s'est passé. Alors, à mon tour, j'ai essayé de voir si c'était possible de ne pas se souvenir. Et j'ai interrogé un addictologue qui est venu témoigner devant la cour d'assises de Paris et qui a expliqué que l'association de certains médicaments, les benzodiazépines avec de l'alcool, pouvait entraîner... des gaps de mémoire. Bon, donc techniquement, pour répondre à votre question, oui, il est possible qu'il ne se souvienne de rien.
Et c'est effectivement un point qui va être au centre de ces procès. Maître Guillaume Trénard, juste un petit mot, mais Kinga Wolf, elle prend beaucoup de somnifères, beaucoup de produits, etc. pour dormir, non ?
Pas vraiment, non. Elle en prend un petit peu depuis justement qu'elle est avec Ian Griffin. Elle traverse, en exergue par beaucoup de témoignages, elle traverse une période de dépression, depuis qu'elle est avec Ian Griffin. Ils vivent une relation qui est extrêmement conflictuelle et dévastatrice pour elle.
Même si sa mémoire lui joue des tours, Ian Griffin va être renvoyé devant une cour d'assises. Reste à savoir quelle ligne de défense il va alors adopter et si ses absences de mémoire vont excuser une éventuelle culpabilité. Lundi 1er décembre 2014, 5 ans après la mort de Kinga Wolf, Ian Griffin, 45 ans, est dans le box des accusés de la cour d'assises de Paris. Il était depuis plusieurs mois placé sous bracelet électronique. Il se déplace avec des béquilles suite à une grave pathologie des membres inférieurs contractés en détention. Quand il prend la parole, sa voix est quasiment inaudible. Il assure n'avoir aucun souvenir de cette nuit où la chambre du Bristol a été dévastée et au cours de laquelle Kinga Wolf a succombé sous les coups. « Je sais que ça n'a aucun sens, mais je ne me souviens pas », dit Griffin. « Je n'ai jamais dit que la vérité, je ne me souviens pas, c'est la vérité de Dieu. Si j'avais pensé une seconde qu'un docteur pouvait l'aider, j'aurais appelé ». Ian Griffin se souvient simplement s'être réveillé dans une chambre sans dessus-dessous. Il dit avoir passé des heures à ranger quand le président l'interrompt et lui demande « Et Kinga ?» L'accusé répond « Je l'ai trouvée dans l'après-midi entre les matelas. Je l'ai mise dans le bain. Elle était froide. » Les explications de Ian Griffin, forcément nébuleuses et partielles à cause du blackout dont il souffre, ne permettent pas de faire avancer le dossier. Pour son avocat, maître Francis Triboulet, c'est du côté du cerveau dérangé de l'accusé qu'il faut chercher une explication. Griffin serait irresponsable de ses actes. L'enquête de personnalité a décrit un homme qui, très jeune, avait été dépassé par des troubles du comportement et qui n'a jamais été pris en charge par des psychothérapeutes. Les rapports des experts décrivent une personnalité de type borderline, perturbé, émotionnellement instable, mais aussi un individu manipulateur qui s'adapte très bien à la présentation des choses selon les circonstances. Griffin paraît être malade, mais les jurés le jugent coupable du meurtre de Kinga Wolf. 20 ans de prison. Maître Guillaume Trénard, vous êtes dans cette affaire et dans ce procès l'avocat de la famille de Kinga Wolf. Très simplement, quel est l'homme qui se présente, que vous avez en face de vous aux assises? Est-ce que vous vous attendiez à ce genre de personnage?
Oui, parce que on avait quand même ces déclarations dans la procédure. On savait que Ian Griffin n'apportait pas véritablement d'explication à son acte. Soit parce qu'il ne se souvenait pas, soit parce qu'il pensait uniquement avoir été attaqué et s'être défendu. La procédure, les constatations matérielles qui ont été faites sur le corps de la victime ont permis de démontrer que la réalité était différente de ce qu'il pouvait prétendre. Son positionnement en première instance a pu effectivement irriter la cour d'assises parce que on avait l'impression qu'on n'avait pas de réponse à des faits quand même extrêmement graves et que on attendait peut-être plus que ce qu'il a pu donner.
On comprend pas que ça soit aussi verrouillé finalement, que sa mémoire à ce point-là.
Il est verrouillé. Et c'est vrai que cette absence de réponse, c'est quelque chose qui, pour les parties civiles, pour la famille de Kinga Hall, c'est quelque chose d'extrêmement
douloureux,
difficile à comprendre et difficile à accepter.
Ouais, c'est ça. Donc il y a de la rage aussi.
Pas de la rage. Il y a de la frustration de ne pas réussir à comprendre les raisons pour lesquelles Kinga Wolf est morte sous les coups de son compagnon.
Ne pas avoir un début de vérité de la part de l'intéressé.
Absolument.
C'est surtout ça. Maître Triboulet, vous êtes à ce procès l'avocat de Ian Griffin. Vous êtes dans cette salle d'assises, tout près de lui. Qu'est-ce que vous sentez? Comment vous essayez de parler avec lui? Qu'est-ce qu'il vous dit? Comment vous essayez de progresser dans ce procès, de l'accompagner?
Il est absent de son procès. Il est absent à partir du moment où il a déclaré qu'il ne se souvenait pas des faits. Et il n'est pas présent et il ne sera pas partie prenante à son procès. C'est donc un homme qu'il devient extrêmement difficile de défendre. On n'arrive pas à trouver de raison, de motif rationnel, de mobile à cet acte. Donc peut-être est-ce qu'il faut chercher, peut-être faut-il chercher dans l'irrationnel. Il n'y a pas de raison parce que c'est pas un crime passionnel en ce sens qu'il n'était pas jaloux d'elle. Il ne lui reprochait pas sa vie intime. Ce n'est pas ce qui s'est passé par exemple. On peut pas calquer sur notre histoire ce qui s'est passé entre Bertrand Cantat et Marie Trintignant. C'est pas des gestes comme ça de porter des coups très violents portés parce que on est pris d'une folie meurtrière de jalousie. Non, c'est pas ça. C'est pas non plus pour prendre son argent à Kinga, puisque justement, en tuant Kinga, il se prive de sa source de revenus.
C'est pas ça
non plus. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Quelle est la raison? Eh bien, cette raison, elle n'existe pas. Donc, il faut regarder du côté des raisons qui sont du domaine de l'absence de raison.
De la psychiatrie.
Et bien évidemment, et c'est pour ça que les psychiatres ont eu effectivement, comme souvent dans les affaires criminelles, ont eu un rôle très important à jouer.
Maître Trénard, encore un mot. Est-ce qu'il s'excuse à ce premier procès? Parce qu'il va y avoir un procès en appel. Est-ce qu'il s'excuse à ce premier procès, Griffin?
Dans mon souvenir, il n'y a pas d'excuses véritablement qui sont prononcées par Ian Griffin, tout simplement parce qu'à partir du moment où il indique qu'il ne se souvient de rien, on a envie de dire qu'il n'y a pas d'excuses de son côté à formuler. Maintenant, je voudrais quand même revenir très rapidement sur ce que dit Francis Riboulet. Moi, je pense que cette affaire, en réalité, c'est pas une affaire de psychiatrie. Il y a une part de psychiatrie parce qu'il a été reconnu par la cour d'assises d'appel comme ayant un discernement altéré, non pas aboli, mais altéré. Il n'est pas question de contester le fait que c'est quelqu'un qui avait des difficultés psychiatriques et qui était borderline. Mais en réalité, on est sur un crime qui est malheureusement un crime très commun, qui est violence conjugale. On est sur des violences conjugales qui vont jusqu'au bout, jusqu'au décès de la victime. On est sur un couple où la violence est consubstantielle. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça fait plusieurs mois que cette violence, elle existe au sein de ce couple. Elle est physique, elle est morale, elle vit sous emprise de son compagnon. Et ce jour-là, on est sur l'aboutissement de cette relation.
Ian Griffin est incarcéré. Il continue d'affirmer n'avoir plus aucun souvenir de la nuit au cours de laquelle Kinga Wolf est morte. Il est bien décidé à faire appel. Un nouveau procès, seule chance pour lui de prouver sa bonne foi. Lundi 4 avril 2016, Ian Griffin est à nouveau devant les juges et les jurés, cette fois de la cour d'assises d'Evry. Sa maladie, une neuropathie qui paralyse les membres inférieurs, s'est aggravée. Il comparait en fauteuil roulant. « Je conteste », dit-il d'emblée. « C'est l'intention que je conteste. » À aucun moment, donc, Griffin n'aurait eu l'intention de tuer une femme qui lui offrait tout ce dont il avait besoin. En premier lieu, une sécurité financière absolue. Elle était parfaite et maintenant elle est partie, tout ça à cause de ses maudits médicaments, indique l'accusé. Ses avocats continuent à plaider une profonde altération de son discernement. Un homme qui n'aurait plus été maître de ses gestes, sans coup porté sur la victime. Une nouvelle fois, les jurés ne penchent pas pour l'irresponsabilité de l'accusé. Il avait conscience de ses actes et de ce qu'il faisait. La peine prononcée est réduite, 14 ans au lieu des 20 ans au premier procès. Avant le verdict, Griffin avait exprimé des remords. « Je devais être le protecteur, celui qui subvient aux besoins. J'ai failli, je suis complètement désolé », dit-il. Maître Francis Triboulet, je précise que vous n'étiez pas à ce procès en appel, mais vous connaissez bien Ian Griffin et son mécanisme. Il y a cette question qui d'ailleurs s'était posée au premier procès, c'est celle de l'abolition de son discernement. Là, il n'y a pas d'abolition du discernement, il y a une altération, c'est ça ? On retient ça, ce qui expliquerait aussi cette peine réduite ?
Pendant l'instruction, les psychiatres ont eu à se prononcer sur cette question fondamentale, c'était de savoir quel était le discernement de Ian Griffin pendant cette fameuse nuit au Bristol. Comme on ne trouve pas de raison à son geste, les psychiatres, on leur a posé la question. Est-ce que cet homme était maître de lui au moment où ça s'est passé ? Est-ce qu'il avait tout son discernement ? Puisque techniquement, c'est comme ça qu'on formule la question. Et les psychiatres ont dit... il n'avait pas tout son discernement était altéré. Vous savez qu'il y a trois possibilités, soit une abolition du discernement qui entraîne l'irresponsabilité pénale, ça ils l'ont écarté, un discernement total ils l'ont écarté, donc ils ont choisi cette solution moyenne, qui est souvent la solution que choisissent les experts, parce que c'est extrêmement difficile, on en a parlé récemment dans l'actualité, c'est extrêmement difficile de décider qu'un accusé, pour des experts, ne sera pas jugé.
C'est ça. Ouais.
Mais il faut quand même savoir qu'il y a un expert qui est venu dire une chose très juste à la cour, qui est venu dire que l'explication de cet acte, elle est peut-être simplement chimique. Ce couple était perfusé aux benzodiazépines et à l'alcool. L'un et l'autre. Bon.
C'est le fameux cocktail qui aurait causé cette espèce.
Alors,
de...
les benzodiazépines, ce sont des anxiolytiques. Bon, ils en prenaient des quantités astronomiques. Et l'alcool plus les benzodiazépines, on sait, c'est établi dans la littérature scientifique, que ça entraîne des actes inconsidérés, des actes où il n'y a pas de discernement. Et c'est l'explication qu'avait donnée cet expert, le professeur Battelle, qui était venu en tant qu'addictologue en disant « Moi, je connais cela, c'est mal connu, mais je sais que des gens qui prennent autant de benzodiazépines et d'alcool sont capables de choses insensées. »
Mais explication qui n'a pas été retenue par la cour.
C'est très difficile à retenir.
Bien sûr, évidemment. Mais en tout cas, bon, ça n'a pas été retenu par la cour. Maître Trénard, avocat de la famille de Kinga Wolf, question toute simple, comment la famille de la victime de Kinga Wolf a-t-elle vécu toute cette épreuve et ces procès en France ?
Évidemment mal, vous avez une famille qui n'a jamais mis les pieds sur le territoire français, il faut bien comprendre que Kinga Wolf, quand elle décède au cours de ce week-end au Bristol, c'est pas quelqu'un qui y habite habituellement, et sa famille n'y a jamais mis les pieds, donc ils viennent pour cette occasion découvrir la France. C'est vrai que ils ont cette première expérience du procès de Paris en 2014, qui est extrêmement compliqué à gérer. En plus, la presse anglo-saxonne, les tabloïds sont un peu déchaînés parce qu'elle est connue en Angleterre et que ça fait les choux gras de cette presse à scandale. Donc ils vivent la situation extrêmement mal. Leur fille, leur sœur est décédée et c'est quelque chose d'extrêmement lourd à apporter.
Qui plus est, le silence de l'accusé pèse aussi, je suppose, sur cette tristesse et sur cette incompréhension. Un mot très court à tous les deux, on a l'impression que dans cette histoire on sait tout ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel, il y a plein de détails, il y a une enquête qui est détaillée et finalement on ne sait rien. Est-ce que maître Trénard, vraiment un mot très court?
On connaît la vérité judiciaire, il y a une déclaration de culpabilité pour meurtre. Après, évidemment, une cour d'assises a toujours des difficultés à sonder les âmes, à sonder les cœurs. C'est peut-être la limite de l'exercice.
Il existe des couples violents avec l'homme et la femme qui sont violents. Ce sont des choses qu'on ne peut pas dire forcément devant une cour d'assises, mais ça existe.
Merci beaucoup, maître Francis Triboulet et maître Guillaume Trénard, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation. Nicolas Godet était à la réalisation.
Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
Bonjour, Cécile Dubert. Alors que s'est ouvert le procès le plus long de l'histoire, celui des attentats du 13 novembre, nous vous proposons d'écouter certains de ceux pris dans cette nuit d'effroi. Policiers, rescapés, médecins, ils nous racontent leur 13 novembre dans notre podcast « Le procès du siècle ». Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur l'application RTL et toutes nos plateformes partenaires.